Que se posent aujourd'hui les journalistes dans trois slides qui seront à votre disposition. Je vous invite à lire parce qu'il met vraiment le doigt sur ce que veut dire représenter l'autre. Je vous remercie.
Merci Isabelle Meuret. On enchaîne tout de suite avec le contexte de l'Afrique subsaharienne. Marie-Soleil Frère, merci.
Merci. Alors maintenant, ce que j'ai 5 minutes, donc je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Et je vais juste vous dire 2 mots sur la caricature dans un tout autre environnement politique et culturel, celui du continent africain. C'est une histoire qui est tout à fait récente, parce qu'évidemment, la caricature n'a pas la même histoire sur la planète entière. On l'oublie parfois avec nos points de vue extrêmement européocentrés. La presse, c'est un instrument qui est apparu sous la colonisation sur le continent africain, c'est-à-dire qui s'est développé dans les pays d'Afrique francophone seulement dans les années 50, les années 1950. Et à partir des indépendances dans les années 60-62 jusqu'aux années 1990, il n'y avait pas de liberté d'expression. Tous les médias étaient des médias qui étaient sous monopole étatique, propriété du gouvernement. Et donc il n'y était évidemment pas question ni de satire, ni de caricature, ni de forme humoristique, sauf dans un seul pays, le Sénégal, où en 1977, c'est un pays qui avait un minimum de pluralisme politique et de liberté d'expression, et là, un premier journal satirique a pu apparaître. Et donc, c'est seulement en 1990 que la liberté de la presse est proclamée en Afrique subsaharienne francophone, qu'une presse privée peut apparaître, et que donc on voit émerger la presse satirique. Et la première vocation de la presse satirique, je vous ai mis ici 3 journaux qui sont vraiment des piliers symboliques de l'émergence de la presse satirique en Afrique francophone dans les années 90. Le Cafard Libéré, vous voyez tout de suite la source d'inspiration, évidemment, de ce journal sénégalais. Le Journal du Jeudi au Burkina Faso et le Popoli au Cameroun. Et la première vocation de ces journaux, c'était désacraliser le chef de l'État. Les médias gouvernementaux, pendant 3 décennies, avaient été des médias soumis au culte de la personnalité, donc qui montraient Mobutu et Yadema avec leurs photos à la une en permanence. Et donc la première mission de cette presse satirique, c'était se moquer du chef de l'État, le faire descendre de son piédestal, le montrer sous les formes, sous les traits d'un animal, ou alors montrer son côté trop humain, qui n'avait pas pu être montré par la presse pendant toute la période précédente. Et donc, les premiers journaux satiriques se sont présentés comme des instruments d'ironisation du pouvoir, et donc comme une forme de contre-pouvoir. Et ce n'est qu'après qu'on a vu se développer d'autres types d'organes satiriques, comme celui que je vous montre ici, qui est un journal de Côte d'Ivoire, qui, lui, n'est pas un journal qui traite de politique. Il cherche à donner plutôt une vision humoristique de la société, et il se présente comme étant le porteur d'un humour qui serait un humour spécifiquement africain. D'ailleurs, si vous regardez leur site, il y a une rubrique « Ce qui nous fait rire, nous », où il est bien expliqué que ce qui fait rire l'Ivoirien qui est à Abidjan, ce n'est pas ce qui fait rire l'Européen. Et donc, derrière le développement de cette forme d'humour, il y a toute une contestation de l'impérialisme occidental, y compris l'impérialisme de certaines formes de presse et l'impérialisme d'une certaine forme d'humour qu'on voudrait imposer à l'Afrique, alors que l'Afrique rit autrement ou rit d'autres choses. Alors, avec l'émergence de cette presse satirique dans les années 90, il y a quand même eu un événement qui a traumatisé l'ensemble de la presse africaine en 1994 et qui a traumatisé également l'ensemble des dessinateurs de presse. C'est ce qui s'est passé au Rwanda au moment du génocide. Je vous ai mis ici la une du journal Le Kangoura, journal qui a été considéré comme ayant participé à la préparation des esprits au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, à tel point que son éditeur Hassan Gueze a été jugé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Son procès s'est terminé en 2003 par une condamnation à 35 ans de prison. Et dans le procès de Hassan Gueze, il a beaucoup été question, bien sûr, des contenus véhiculés par son journal et, entre autres, des caricatures, puisque son journal avait systématiquement contribué à animaliser les Tutsis, à les présenter sous des traits qui allaient rendre possible, le fait de les considérer comme des sous-hommes, comme des gens qui n'étaient pas vraiment des humains, et donc faciliter le passage à l'exécution, puisque vous savez que le génocide des Tutsis au Rwanda, ça a été un génocide de voisinage, où des gens se sont levés, ont pris leurs machettes et sont allés tuer leurs voisins et parfois des membres de leur famille. Alors, par exemple, il y a eu débat autour de cette caricature qui avait été publiée par Kangoura, où vous voyez le général Dallaire, qui était le chef de la mission des Nations Unies au Rwanda, qui est aux mains de deux belles femmes tutsies, dont on voit que ce sont des prostituées. Le journal a publié énormément de ces dessins qui montraient les femmes tutsies comme des femmes provocatrices, séductrices, de mauvaise foi, et qui allaient contribuer à faire en sorte que la communauté internationale ferme les yeux sur le danger que représentaient les tutsis pour le Rwanda. Et si cette image est importante et si elle a été montrée et débattue devant le TPIR à Arusha, devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est parce que les femmes tutsis vont être des victimes centrales du génocide. Il y a eu des dizaines de milliers de viols, il y a eu des dizaines de milliers d'exécutions, d'assassinats, et avec des mutilations extrêmement violentes, des mutilations sexuelles extrêmement violentes, des femmes dont on a perforé le sexe, des femmes dont on a coupé les seins. Et Kangoura est considéré comme étant un journal qui a contribué à véhiculer cette image de la femme tutsi et donc à faciliter ce type de pratique pendant le génocide. Alors, on le voit dans d'autres pays. L'histoire récente de la caricature sur le continent africain est une histoire jalonnée d'épisodes difficiles. Il y a eu entre autres énormément de procès de presse qui ont touché des journaux satiriques, essentiellement des procès en diffamation, des procès pour injure ou pour atteinte à la personne du chef de l'État. Peut-être un dernier exemple qui est cette caricature, vous avez tous reconnu le roi Mohamed VI, pour vous dire que ces procès nombreux contre des caricaturistes et contre des journaux satiriques africains ont souvent débouché sur des peines extrêmement lourdes. Il y a plusieurs journaux qui ont dû fermer parce que tout simplement ils n'étaient pas en mesure de payer les amendes auxquelles ils étaient condamnés suite à des procès en diffamation. Dans ce cas-ci, c'est un jeune internaute marocain de 18 ans qui a repris sur son Facebook cette caricature, qui est une caricature d'un dessinateur du Burkina Faso et qui avait transité par le journal Le Monde. Donc on revient à la question de la circulation qu'évoquaient Laura et Catherine tout à l'heure. Et donc voilà, en 2012, il a été condamné à 12 mois de prison pour atteinte à la sacralité de la personne du roi. Donc pour conclure, pourquoi ce détour par l'Afrique peut être intéressant dans notre réflexion autour de la caricature, parce que je pense qu'elle permet, ce détour permet de mesurer combien le genre satirique est marqué par des spécificités qui sont liées à l'histoire des différentes régions du monde. Ici, en Afrique subsaharienne, je vous l'ai dit, ce genre est un genre qui a à peine 25 ans d'âge et qui est aussi un genre qui a été confronté à une histoire traumatique, entre autres le rôle des médias et de la presse écrite et de la caricature dans ce qui s'est passé au Rwanda. Les spécificités sont aussi liées à la culture. Damien Gley, qui est l'auteur de la caricature de Mohamed VI que je viens de vous montrer, qu'on a beaucoup entendu après l'affaire Charlie, parce qu'il a été un peu le porte-parole des caricaturistes africains, et chaque fois, il a insisté sur le fait que le dessin a un impact différent en Afrique, qu'on est dans une société de l'oralité où les gens sont extrêmement sensibles à l'image et que lui ne pourrait jamais se permettre au Burkina Faso de dessiner ce que dessinaient les dessinateurs de Charlie parce que culturellement, ce ne serait pas acceptable. Je vous renvoie aussi au projet de Gbiche, ce journal ivoirien qui estime que ce qui fait rire les Ivoiriens, ce n'est certainement pas ce qui fait rire les Français. Alors les limites, les spécificités, elles sont aussi liées à la législation. Je vous ai dit qu'il y avait eu énormément de procès de presse visant des caricaturistes et des dessinateurs en Afrique subsaharienne. On est malheureusement dans des pays où la justice est très faiblement indépendante. Elle est souvent soumise à l'exécutif. Et donc si ces procès ont abouti à des condamnations, c'est aussi parce que la justice est souvent manipulée par les ministres, par les chefs d'État qui souhaitent obtenir la condamnation de tel journaliste ou de tel organe. Parce que dans l'énorme majorité des pays d'Afrique subsaharienne, on est dans un environnement politique qui est qualifié par les politologues de semi-autoritaire, où donc on autorise la liberté d'expression, on autorise des journaux à apparaître, on autorise la presse privée, les radios, les télévisions privées, mais en même temps, l'État, le pouvoir, dispose d'outils qui vont permettre de restreindre cette liberté, et un de ces outils, c'est la manipulation du système judiciaire. Et enfin, dernière spécificité qui est différente, à mon avis, dans les différents espaces dans lesquels la caricature se déploie, ce sont les lignes rouges que les journalistes se fixent à eux-mêmes. Les lignes rouges, c'est une expression qui vient du Maroc, c'est les journalistes marocains qui parlent de lignes rouges qu'ils ne peuvent pas franchir dans la presse marocaine. Ce sont des principes qui sont souvent non explicites, mais que tout le monde connaît au sein de la profession et qui conduisent à une forme d'autocensure. Donc voilà quelques références pour ceux qui voudraient aller plus loin.